Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. Diffusion en français. La voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir, chers auditeurs. Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta.
Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « La catastrophe de glissement de terrain en PNG et l'Indonésie exprime ses condoléances ». La Malaisie appelle la communauté internationale à faire pression sur Israël pour qu'elle se conforme à la CIG. Le Forum Indonésie-Pays-Bas sur le commerce, le tourisme et l'investissement se tiendra bientôt. Le chercheur affirme que la technologie offre une solution pour fournir de l'eau propre et potable. La liste des candidats à la présidentielle iranienne sera annoncée le 11 juin. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. Le gouvernement de la République d'Indonésie, par l'intermédiaire du ministère des Affaires étrangères, a exprimé samedi ses condoléances pour le glissement de terrain catastrophique dans le pays voisin, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Dans une déclaration écrite sur le compte des réseaux sociaux de X, le ministère indonésien des Affaires étrangères a exprimé sa sympathie et ses condoléances pour le glissement de terrain qui a frappé des centaines d'habitants dans la province d'Enga en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Le ministère indonésien des Affaires étrangères espère que les victimes du glissement de terrain pourront être rapidement retrouvées, saines et sauves, et que le processus d'évacuation se déroulera sans problème. ABC a rapporté que vendredi, un glissement de terrain a frappé le village isolé de Kaukalam, dans la province d'Enga, situé à environ 600 km de la capitale, Port Moresby, vers 15h heure locale. L'AFP a rapporté samedi que la police locale a déclaré qu'au moins 12 personnes avaient été tuées et de nombreuses autres blessées ou portées disparues après un glissement de terrain dans la province de Otter, du sud de Papouasie-Nouvelle-Guinée. La Malaisie appelle la communauté internationale à accroître la pression sur Israël pour qu'il se conforme immédiatement à la décision supplémentaire de la Cour internationale de justice, ou CIG, concernant la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide à Gaza. Rapporté par Antara à Jakarta, le ministère malaisien des Affaires étrangères, dans un communiqué de presse publié samedi à Putrajaya, a déclaré que la Malaisie se félicitait de la décision de la CIG d'ajouter aux mesures qu'Israël doit immédiatement prendre concernant la Convention pour la prévention et la répression des crimes de génocide à Gaza. Le ministère malaisien des Affaires étrangères a déclaré dans son communiqué que le non-respect par Israël des directives données constituait un mépris du droit international. la Malaisie reste déterminée à lutter pour la question palestinienne et poursuivra ses efforts en faveur de la création d'un État palestinien indépendant et souverain, basé sur les frontières d'avant 1967 et de Beit al-Maqdis comme capitale de l'État, et de l'acceptation de la Palestine comme membre de l'ONU à part entière de l'État palestinien. L'ambassade d'Indonésie à La Haye, aux Pays-Bas, organisera le forum Indonésie-Pays-Bas sur le commerce, le tourisme et l'investissement. Ce forum aura lieu du lundi au mercredi à Amsterdam, aux Pays-Bas. Ce forum est une collaboration entre l'ambassade d'Indonésie à La Haye, le Centre indonésien de promotion des investissements et la Banque d'Indonésie. Dans un communiqué officiel reçu samedi à Jakarta, l'ambassade d'Indonésie à La Haye a déclaré que ce forum visait à faciliter le dialogue entre les parties prenantes et les réseaux d'affaires entre l'Indonésie et les Pays-Bas afin d'accroître les investissements et la coopération dans les domaines du commerce et du tourisme entre les deux pays. L'ambassade d'Indonésie à La Haye a déclaré que les Pays-Bas figurent régulièrement parmi les 10 principales sources d'investissement direct étranger en Indonésie. Les Pays-Bas sont également le pays européen où la valeur de réalisation des investissements est la plus élevée au cours des 5 dernières années. Les Pays-Bas sont la principale porte d'entrée du commerce vers l'Europe et l'un des principaux pays soutenant une économie verte et circulaire. Au Forum Indonésie-Pays-Bas, sur le commerce, le tourisme et l'investissement, des activités sont prévues pour présenter les produits des micro-petites-moyennes entreprises. L'objectif est d'aider les micro-petites-moyennes entreprises indonésiennes à accéder aux marchés internationaux, y compris en Europe. Le chercheur du Centre de recherche en limnologie et sur les ressources en eau de l'Agence nationale de recherche sur l'innovation, Ignacio Sotapa a déclaré dimanche que la mise en œuvre de la technologie pourrait fournir une solution pour répondre aux besoins de la communauté en eau propre et potable. Rapporté par Antara à Jakarta, Ignacio Sotapa a expliqué que son parti avait créé une technologie pour fournir de l'eau propre et consommable qui pourrait traiter les sources d'eau marginales de Sumatra, Kalimantan et Papouasie. La technologie, appelée installation de traitement des eaux de tourbe ou en indonésien abrégé en IPAG, a été mise en œuvre dans le cadre d'un projet pilote situé au centre du Kalimantan de 2011 à 2015. Selon lui, la rupture technologique doit être utilisée pour contribuer à l'approvisionnement en eau. Il a également encouragé le développement d'un système de gouvernance basé sur la technologie qui pourrait être développé massivement. L'inscription des candidats à l'élection présidentielle iranienne, qui a été accélérée après le décès du président Ebrahim Raisi, débutera le 30 mai. Comme l'a rapporté Antara samedi, le chef de siège des élections provinciales a déclaré que la liste des candidats à la présidentielle sera annoncée le 11 juin. Il a indiqué que l'enregistrement des candidats à la présidentielle aura lieu du 30 mai au 3 juin, tandis que la vérification de la conformité aura lieu du 4 au 10 juin. Les candidats à la présidentielle pourront ensuite mener une campagne électorale présidentielle pendant 2 semaines, du 12 au 26 juin. La semaine dernière, le président Raisi s'est rendu en Azerbaïdjan pour participer à la cérémonie d'ouverture du barrage de Gizgalassi et à la construction du barrage de Khudafarin à la frontière. L'hélicoptère de Raisi s'est écrasé alors qu'il rentrait en Iran, causant la mort du président et des membres de son entourage, dont le ministre des Affaires étrangères Amir Abdollahian. Les résultats d'une première enquête officielle menée par le gouvernement ont conclu que l'hélicoptère avait pris feu après s'être écrasé au sommet d'une colline en raison d'un épais brouillard. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Bonsoir à tous, voici la mise au point de la semaine, dont le titre est « Le Forum mondial de l'eau produit une déclaration ministérielle ». Pour la première fois, le 10e Forum mondial de l'eau, ou WWF à Bali, a produit une déclaration ministérielle. Cette déclaration est le résultat d'une réunion ministérielle lors du 10e Forum mondial de l'eau qui s'est tenu à Bali le 20 et 21 mai 2024. La déclaration a été intitulée « Déclaration ministérielle sur l'eau pour une prospérité ensemble ». La déclaration commence par une reconnaissance et un examen des documents existants, y compris les résultats des processus pertinents de l'ONU. Les résultats sont considérés comme représentant des étapes importantes dans la résolution des problèmes mondiaux de développement durable et liés à l'eau. Les ministres ont souligné que le droit à l'eau potable et à l'assainissement sûr était très important pour la réalisation du droit humain à la vie. Cette chose est considérée comme une composante du droit à un niveau de vie suffisant. À cet égard, les ministres s'inquiètent du fait que le monde soit en retard pour assurer la réalisation du 6e objectif de développement durable, ou ODD, en 2030. Cet objectif consiste à garantir la disponibilité et la gestion durable de l'eau potable et de l'assainissement pour tous. Cette situation est considérée comme un risque important pour le bien-être humain et les trois dimensions du développement durable, à savoir l'environnement, l'économie et le social. Ils sont également préoccupés par le manque d'accès aux services adéquats d'eau et d'assainissement en cas d'urgence. Ils soulignent l'importance des services d'eau potable et d'assainissement dans les pays touchés par certaines conditions telles que les catastrophes naturelles et la guerre. Les ministres ont également souligné que le Forum mondial de l'eau, depuis sa création en 1997, avait contribué au dialogue et à l'action internationale sur l'eau. Ils ont souligné le rôle du Forum mondial de l'eau dans la contribution aux programmes mondiaux liés à l'eau, y compris dans le cadre des Nations Unies. Basé sur les différents points de réflexion dont ceux évoqués ci-dessus, les ministres ont ensuite formulé ces points d'accord. Ils ont lancé un appel urgent et exprimer leur volonté politique de traduire leurs engagements en politique, plans et actions. Entre autres choses, ils s'engagent à conserver, protéger et utiliser de manière durable les ressources en eau, y compris à travers le développement d'une gestion efficace et intégrée des ressources en eau. Ils ont promis de mettre en œuvre des mesures et des actions durables pour réduire la pression sur la disponibilité de l'eau. Cela comprend la gestion de la demande et de l'approvisionnement en eau, la construction d'un système de gestion de l'eau et l'utilisation des ressources en eau non conventionnelles. Certaines des mesures non conventionnelles d'utilisation de l'eau comprennent la réutilisation des eaux usées traitées, le dessalement et la collecte des eaux de pluie. Le document propose la Journée mondiale des lacs dans le cadre des processus de l'ONU. L'objectif est de mettre en valeur les lacs naturels et artificiels comme ressources en eau importantes qui contribuent à la disponibilité et à l'accessibilité de l'eau. Ils sont convenus de favoriser l'éducation, la recherche, l'innovation et la coopération dans le développement des capacités et le transfert des technologies dans le secteur de l'eau. Cela inclut la coopération Nord-Sud et Sud-Sud. Les ministres ont apprécié l'initiative de l'Indonésie et du Conseil mondial de l'eau de mobiliser et de développer des engagements volontaires. Cet engagement implique des actions à travers les pays, les secteurs et les parties prenantes, dont l'une consiste à accélérer la réalisation de l'objectif 6 des ODD. Ils attendent également avec impatience le 11e Forum mondial de l'eau qui devrait se tenir à Riyad en Arabie Saoudite. C'est tout la mise au point de la semaine. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 26 mai. On commence par le 26 mai 1918, la République démocratique de Géorgie a été fondée. La République démocratique de Géorgie est une république moderne fondée en Géorgie. La République démocratique de Géorgie a été fondée après l'effondrement de l'Empire russe et le début de la Révolution russe de 1917. Après la révolution de février 1917 et l'effondrement du gouvernement tsariste dans le Caucase, l'essentiel du pouvoir est confié au comité spécial transcaucasien du gouvernement provisoire russe. L'existence de la République démocratique de Géorgie n'a pas duré longtemps. Le pays a été de nouveau envahi par l'armée bolchevique russe et entré dans l'Union soviétique en 1921. Le 26 mai est également un jour important pour la Géorgie. Le 26 mai 1991, la République démocratique de Géorgie a organisé sa première élection présidentielle directe. Le 26 mai 1966, l'indépendance de la Guyane. La Guyane a été découverte par des marins espagnols il y a environ 5 siècles. Ce pays devient plus tard le colonisateur de la Guyane. Au début du XVIIIe siècle, une terrible guerre a éclaté entre les pays européens dans les régions de Guyane, du Suriname, du Venezuela et dans plusieurs régions du Brésil. En 1815, le traité de Vienne a été signé par les pays impliqués dans la guerre. Dans cet accord, les limites de la zone contestée devaient être divisées entre les pays coloniaux. Lors de cette division, la Guyane devient une colonie britannique jusqu'à ce qu'elle devienne finalement indépendante le 26 mai 1966. Le 26 mai 1972, le traité sur les missiles antibalistiques a été signé. Le traité sur les missiles antibalistiques était un traité entre les États-Unis et l'Union soviétique concernant les restrictions sur les systèmes de missiles antibalistiques utilisés pour défendre les territoires contre les missiles nucléaires. Le 26 mai 1972, le président des États-Unis, Richard Nixon, et le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, Leonid Brezhnev, ont signé le traité sur les missiles antibalistiques. Le traité sur les missiles antibalistiques a été en vigueur pendant 30 ans, de 1972 à 2002. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Voilà la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Mon Indonésie d'aujourd'hui intitulée « 16 étudiants athlètes champions du sac reviennent d'un entraînement en Chine ». Au total, ces étudiants ayant le statut d'Energian Champion SAC Indonesia 2023 National Championship ont participé à un entraînement en Chine du 24 avril au 2 mai 2024. Ils ont eu l'occasion de s'entraîner à l'Université des Sports de Shanghai, ou SUS, qu'on utilise souvent pour les centres d'entraînement pour les athlètes chinois avant le tournoi international. SUS s'est vu confier la gestion des sciences du sport qui sera utilisée dans la recherche pour préparer les Jeux olympiques de Pékin en 2008. Le résultat, c'est la Chine a réussi à devenir championne du classement général avec 100 médailles. Pendant l'entraînement, les champions du sac d'Indonésie 2023 ont reçu du matériel des meilleurs entraîneurs, y compris Tao Yujia. Tao Yujia est maître sportif du 100 mètres et du 4 fois 100 mètres. Il a remporté les Jeux asiatiques et a également participé aux Jeux olympiques et aux championnats du monde. Il y a aussi Wang Zouyang, qui est un expert dans la course aux 1500 mètres. Il est entraîneur à l'IAAF pour la catégorie court de moyenne et longue distance. Wang Zouyang a également dirigé l'équipe chinoise d'athlétisme des jeunes. L'un des participants à l'entraînement, Juanda Christian Hutagaul, champion du lancer du poids masculin SAC Indonesia 2023 National Championship, a déclaré qu'il était très excité de pouvoir s'entraîner en Chine. Selon l'étudiant du SMKN 7 Medan, la Chine est un pays actuellement en compétition au niveau international. Donc, s'entraîner avec des entraîneurs de niveau mondial est définitivement différent. Juanda a déclaré que le lancer du poids enseigné à SUS était différent de ce qu'il avait étudié jusqu'à présent. Selon lui, c'est différent en termes de technique et de partie entraînement. Outre les activités de formation, les participants ont également exploré la ville de Shanghai. Ils ont été invités à visiter des attractions touristiques emblématiques préparées par les partenaires de DBL d'Indonésie à Shanghai. Ils ont également visité la ville de Suzhou pour assister à la Ligue des Diamants, l'événement d'athlétisme d'une journée la plus prestigieuse au monde organisé par World Athletic. DBL d'Indonésie, en collaboration avec l'Association indonésienne d'athlétisme, ou PASI, en tant qu'organisateur du SAC d'Indonésie, offre toujours des récompenses aux champions par les programmes de formation internationaux. Lors de leur première saison, le champion du SAC a été emmené à suivre une formation internationale en Australie de l'Ouest. La deuxième année, la formation a eu lieu en Chine. Le fondateur et PDG de DBL d'Indonésie, Azrul Ananda, a déclaré qu'il avait choisi d'envoyer les champions du SAC d'Indonésie 2023 pour suivre une formation internationale en Chine, car il faut reconnaître qu'ils ont actuellement le meilleur et le plus fort développement athlétique au monde. Selon lui, des athlètes de classe mondiale tels que Guo Fan, sprinter, et Yin Anuo, comme coureur de fond, viennent de ce pays. Il espère qu'après avoir participé à cet entraînement international en Chine, la motivation et la perspicacité des enfants à prendre l'athlétisme plus au sérieux augmenteront.
Banyak teman-teman.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne.
Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, en tant que destination touristique mondiale, Bali a tout. La belle nature commence par les plages, les rizières en terrasse, les montagnes, jusqu'à la culture et les coutumes. Il n'est donc pas surprenant que Bali ait toujours été une destination touristique préférée des touristes souhaitant passer leurs vacances. L'une des destinations les plus populaires, elle a reçu le statut de patrimoine culturel mondial de l'UNESCO et la destination touristique de Jati Lui, qui a été visitée par des délégations de divers pays lors de la série d'événements du 10e Forum mondial de l'eau. Jati Lui est célèbre pour sa région productrice de riz rouge. Les habitants de Jati Lui utilisent le riz rouge pour le transformer en une boisson très typique, à savoir le thé au riz rouge. Le thé au riz rouge, qui est désormais devenu une boisson typique de ce village, est un menu très recherché par de nombreux touristes visitant Jati Lui. Presque tous les stands du village touristique de Jati Lui servent cette boisson à base de riz rouge. Les touristes qui visitent Jati Lui peuvent profiter de la vue et de l'air frais en dégustant un plat typique de thé au riz rouge. Le processus de préparation du thé au riz rouge n'est pas difficile. Faites d'abord rôtir le riz rouge pendant environ 10 à 15 minutes ou jusqu'à ce que vous sentiez un arôme parfumé. Mettez le riz brun rôti dans un verre et ajoutez de l'eau chaude. Ce thé au riz rouge a non seulement un goût unique, mais présente également de grands bienfaits pour la santé car il contient beaucoup de vitamine B. Chers auditeurs, si vous êtes en France, à Bali, et que vous visitez le village de destination touristique de Jati Lui, situé à environ 45 minutes à 1h de Denpasar, essayez le thé au riz rouge, une boisson typique de ce village. La couleur brune rougeâtre du thé de riz rouge n'est pas obtenue à partir de colorants artificiels, car le processus de fabrication du thé de riz rouge est entièrement réalisé selon des méthodes naturelles. La couleur vient de l'épiderme qui recouvre le riz rouge. Parce qu'il est servi sans sucre, ce thé au riz brun a un goût amé. Vous pouvez donc ajouter du sucre de palme comme édulcorant. En plus de déguster du thé au riz rouge dans le village de Jati Lui, vous pouvez également acheter du thé au riz rouge emballé en guise de souvenir.
Basahi pipiku di saat kita kan berpisah. Terucapkan janji padamu kasihku, takkan ku lupakan dirimu. Begitu beratnya. beratnya. Kau lepas diriku, sebut namaku jika kau rindukan aku. Aku
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme croncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4755 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Voici l'Indonésie en couleur, intitulée L'Indonésie figure sur la liste des destinations touristiques les plus populaires d'Asie-Pacifique. L'Indonésie possède une richesse naturelle extraordinaire, une culture diversifiée et la gentillesse de sa population, ce qui fait de l'Indonésie l'une des destinations touristiques les plus populaires de la région Asie-Pacifique. Le Mastercard Economic Institute, ou abrégé en MEI, collecte des données touristiques de chaque pays et publie une liste des destinations touristiques les plus populaires au cours des 12 derniers mois. La durée de 12 mois est calculée jusqu'en mars 2024 et conclut 5 destinations touristiques populaires en Asie-Pacifique. Toutes les destinations touristiques de la région Asie-Pacifique figurent également dans le top 10 des pays les plus populaires jusqu'en mars 2024.
Outre l'Indonésie, les autres pays figurant sur la liste des pays les plus populaires sont le Japon, la Malaisie, l'Australie et la Corée du Sud. Non seulement dans la région Asie-Pacifique, le Japon occupe également la première place dans la catégorie des destinations touristiques mondiales les plus populaires jusqu'en mars 2024. Bali est répertorié comme la principale destination d'Indonésie la plus recherchée par les touristes étrangers. Le plus grand nombre de visites touristiques en Indonésie vient d'Australie. Avec son extraordinaire beauté naturelle, sa richesse culturelle diversifiée, ses délices culinaires alléchants et la gentillesse de sa population, il n'est pas surprenant que l'Indonésie reste l'une des destinations touristiques les plus populaires de l'Asie-Pacifique. Pour les touristes en quête d'aventure, de beauté naturelle et d'expériences culturelles authentiques, l'Indonésie est l'endroit idéal à visiter.
Sing for senyum sayang, benakku sayang tambah sayang. Rasa pusing-pusing, kedang dan ayo kita healing.
Sama, Vian dan Putri, okay.
Bukan deh aku ora peduli, tapi pancen kodemu angnya dipaham. Gengsimu jelas-jelas aku ndak mampu. kita healing.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne.
Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Voici le magazine musical. Cette fois-ci, je parle d'une chanson de Shana Shannon. Shana Shannon Siswanto est une chanteuse et youtubeuse indonésienne. Shannon est connue du public pour sa capacité à chanter l'hymne national avec une grande passion depuis la mise en ligne d'une reprise de l'hymne national Indonesia Pusaka en 2015. En mai 2024, Shana Shannon a sorti son dernier single intitulé Kehilangan. Cette chanson créée par Balawan, un musicien de jazz de Bali, a une belle touche mélodique et des paroles profondes. Kehilangan raconte de quelqu'un qui se sent perdu à cause du départ de quelqu'un qu'il aimait vraiment et qui lui tenait vraiment à cœur. Avant d'approfondir la chanson, Shana Shannon se positionne de manière à rappeler le décès de son grand-père. Il a rappelé ce moment à nouveau pour que les émotions de cette chanson puissent être transmises. Voici Shana Shannon dont le titre est Kehilangan. Bonne écoute!
Hening tak bersuara bagaikan hatiku terdiam bisu. Kehilangan dunia, ku harap semua tak nyata.
La Voix de l'Indonésie, la diffusion à l'étranger de Radio République Indonésia, présente des émissions dans nos services linguistiques anglais, français, allemand, néerlandais, espagnol, arabe, mandarin, japonais et indonésien. Cette émission radiophonique est diffusée via SW 3325 kHz et 4755 kHz et en streaming sur www.voinews.id et RRI numérique. Nous vous présentons divers programmes Charme de l'Indonésie, l'Indonésie en couleur, Parlons indonésien, divertissement de musique pop indonésienne, régionale et la chanson au rythme kroncong, ainsi que des actualités et des informations sur l'Indonésie et l'étranger. La Voix de l'Indonésie au monde.
Malam minggu, ayah pergi ke bioskop. Pertandingan, ame pacar nonton koboi.
Ada indie kan itu?
Karcis, tahu-tahu kehabisan. Jadi gengsi, kepaksa beli catur.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.